qu'il me semble entrevoir. Pourquoi nous souvenons-nous du passé et non du futur? Est-ce que nous existons dans le temps ou bien le temps existe-t-il en nous? Qu'entend-on exactement par l'écoulement du temps? Comment le temps est-il relié à notre nature de sujet? Et qu'est-ce que j'écoute lorsque j'écoute le temps qui passe? Ce livre est divisé en trois parties inégales. Dans la première, je résume ce que la physique moderne a compris du temps. C'est un peu comme tenir un flocon de neige dans sa main. Au fur et à mesure que nous l'étudions, il fond entre nos doigts et finit par disparaître. Nous pensons communément au temps comme quelque chose de simple, de fondamental, qui s'écoule uniformément du passé vers le futur, indifférent à tout, mesuré par des horloges. Dans le temps, les événements de l'univers se succèdent en bon ordre, passé, présent, futur. Le passé est fixé, le futur ouvert. Eh bien, tout cela s'est révélé faux. Les caractéristiques du temps, les unes après les autres, ont montré leur vrai visage. Des approximations, des illusions dues à la perspective, comme la platitude de la Terre ou la rotation du Soleil autour de celle-ci. Au fur et à mesure que nos connaissances s'affinaient, la notion de temps se désagrégeait. Ce que nous nommons temps est en fait une collection complexe de structures, de couches. Soumis à une étude toujours plus poussée, le temps a perdu ses couches les unes après les autres. La première partie raconte cet effritement progressif. La deuxième partie décrit ce qui reste à la fin de l'opération. Un paysage vide et venteux qui semble avoir perdu presque toute trace de temporalité. Un monde bizarre, inconnu. Notre monde. Un peu comme lorsqu'on arrive en haute montagne où règne la neige, la pierre et le ciel. Ou encore, ce qu'ont peut-être ressenti Armstrong et Aldrin en s'aventurant sur le sable immobile de la Lune. Un monde dépouillé, d'où irradie une beauté aride, pure et inquiétante. Mon domaine d'étude, la gravité quantique, vise à comprendre et à donner un sens cohérent à ce paysage d'une extrême beauté, le monde sans temps. La troisième partie du livre est la plus difficile, mais aussi la plus vivante et la plus proche de nous. Dans ce monde sans temps, il doit y avoir malgré tout quelque chose qui est à l'origine du temps que nous connaissons, avec son ordre, son passé différent du futur, son doux écoulement. Notre temps doit d'une façon ou d'une autre émerger autour de nous, à notre échelle, pour nous. C'est un voyage retour vers le temps perdu dans la première partie du livre, à la poursuite de la grammaire élémentaire du monde. Comme dans un roman policier, nous partons maintenant à la recherche du coupable, celui qui a engendré le temps. Et nous retrouvons un à un les éléments qui composent notre temps familier, ces éléments qui ne sont pas des structures élémentaires de la réalité, mais des approximations utiles aux créatures gauches et empotées que nous sommes, nous mortels. Des aspects de notre perspective et peut-être aussi des aspects déterminants de ce que nous sommes. Parce qu'à la fin, le mystère du temps a peut-être davantage à voir avec ce que nous sommes plutôt qu'avec le cosmos. Peut-être que, comme dans le premier et le plus beau des romans policiers, l'Œdipe roi de Sophocle, le coupable n'est autre que le détective. Ce livre ne sera alors plus qu'un magma brûlant d'idées, parfois lumineuses, parfois confuses. Si vous me suivez encore, je vous emmènerai là où s'arrête, je pense, notre savoir actuel sur le temps, au bord du grand océan nocturne et étoilé de ce que nous ne savons pas encore. Chapitre 1. La perte de l'unicité. De douces jeunes filles entrelacent leurs danses d'amour, illuminées par la lune de ces nuits limpides. Horace 1, Ode 4. Le ralentissement du temps.